Devenir lanceur d'alerte. Une production de la revue Les Périphériques vous parlent avec le philosophe et journaliste d'investigation Roger Langlais. Huitième partie.
Comment médiatiser l'alerte et la médiatiser durablement ?
Pour médiatiser une alerte, le meilleur moyen, c'est d'aller voir bien sûr les médias. Mais plus que de simplement s'adresser aux journalistes, le moyen le plus efficace, c'est de rédiger soi-même l'article ou le livre, a fortiori, sur l'alerte. Alors, il se peut que l'alerte mérite précisément l'écriture d'un livre, et pas seulement d'articles, parce qu'un livre, ce qui est bien, c'est qu'ensuite, ça permet de faire des articles autour du livre, de donner encore plus d'écho à l'alerte. Écrire un livre, il y a un continent de choses à dire, mais ça commence par déjà aller voir des éditeurs, les plus gros éditeurs possibles pour commencer, puisque sinon, c'est le meilleur moyen d'enterrer une alerte, c'est sortir le livre chez un tout petit éditeur qui va quasiment pas le diffuser, qui aura pas de relais auprès de la presse, et à ce moment-là, l'alerte est littéralement enterrée. Bon. En tout cas, livre et article, ça c'est un des points importants. J'attire l'attention sur le fait que les risques juridiques deviennent plus importants, parce que là, on est vraiment en train de dénoncer publiquement des dangers, donc des produits, donc des producteurs, et éventuellement des acteurs qui ont couvert la paralysie sanitaire. Au-delà des livres et des articles, il y a les prises de parole publiques, ça peut être des conférences de presse ouvertes au public ou aux journalistes. Ces prises de parole publiques, là aussi, donc, doivent faire l'objet d'une préparation précise. Là aussi, il faut faire attention de ne pas trop se laisser emporter non plus, notamment par les questions qui vous sont posées, qui souvent réveillent vos émotions, vos colères, etc. Donc, il y a intérêt à bien préparer ces conférences, qu'elles soient conférences de presse ou conférences tout public, puisque aujourd'hui, même dans une région, une petite conférence devant 10 personnes peut être enregistrée, mise sur le net, et donc, du coup, constituer un élément de diffamation qui risque donc de vous compliquer la vie s'il y a un procès.
Et comment médiatiser durablement une alerte ?
Pour la médiatiser durablement, il faut bien penser qu'un article, ça s'oublie très vite. Alors ça reste aujourd'hui plus ou moins sur Internet, on peut y accéder à nouveau dans les archives et tout ça. Bon. Un article dans un quotidien, par exemple, il va durer 24 heures, sauf s'il a de l'écho et qu'il est repris, ce qui est souvent le cas, mais enfin, la durée est relativement courte. Ce qu'il est bon de faire dans ce cas-là, déjà dans les médias, c'est de commencer par saisir les quotidiens, que ce soit la presse écrite ou audiovisuelle, mais aussi les hebdomadaires, émissions ou journaux hebdomadaires, les mensuels. Donc rebondir comme ça dans ces interviews, organiser cette série, ça permet de faire durer un peu l'alerte. Mais au-delà, il faut bien songer qu'un livre, on en parle pendant un an, pendant des années. Et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup d'industriels préfèrent attaquer en justice les livres plutôt que les articles, parce que les articles, on les oublie. Donc un procès ne ferait que faire durer l'écho autour du sujet. Alors qu'un livre, ça les embête beaucoup plus, et on les voit beaucoup plus attaquer donc les auteurs de livres. Mais donc précisément, c'est la vertu du livre que de durer. Et souvent, donc, les articles autour d'un livre, ou les interviews autour d'un livre, durent un an, ou voire beaucoup plus. Et puis un livre, ça rentre dans une bibliothèque, ça se prête, ça existe pendant des années, voire des décennies. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour faire durer une alerte. Autre moyen pour faire durer l'alerte, faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas, c'est très important de la maintenir dans le temps, sinon aussi bien les autorités que les industriels vont laisser passer leur âge, et donc elle n'aura pas eu de conséquences positives, sinon d'attirer un peu l'attention, de s'inscrire plus ou moins dans les mémoires, mais enfin, ce n'est pas un résultat très intéressant sur le plan de la prévention, parce qu'il faut quand même aboutir, c'est ça le but d'une alerte, à la mise en place de mesures de prévention, donc soit restriction des usages, soit interdiction du produit. Ne pas hésiter à notamment aller vers les reportages, c'est-à-dire à contacter des journalistes de l'audiovisuel en leur proposant éventuellement les éléments que vous avez utilisés pour votre livre ou pour vos articles. L'intérêt du reportage, c'est qu'il va s'inscrire beaucoup dans le temps. Il passe en télévision, il rebondit de chaîne en chaîne, etc. Et le reportage peut remettre le dossier dans l'opinion régulièrement ou être sur le net ensuite et puis être regardé par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Il faut parler aussi, bien sûr, des conférences publiques, parce que des conférences, vous pouvez en donner pendant très longtemps, pendant des années. Donc là aussi, ça passe beaucoup par les associations ou les formations politiques qui peuvent être intéressées, en particulier du côté des Verts pour les alertes qui concernent l'environnement et la santé, des associations de victimes ou de patients, etc., qui sont aussi intéressés. Donc les conférences peuvent aussi s'inscrire dans les échos à donner aux livres que vous sortez, mais enfin on peut en faire aussi sans faire de livres. Donc là, ça permet d'inscrire cette alerte dans le temps, d'autant que, au passage, les industriels concernés, si ce sont des industriels, vont organiser une campagne de déni. Il nie tout simplement ce que vous dites, les dangers, ou alors il les minimise, etc. Et là, il y a toute une stratégie de leur côté qui est mise en place pour décrédibiliser, en quelque sorte, l'alerte que vous voulez lancer. Évidemment qu'il ne faut pas s'effacer en laissant le déni simplement s'installer et les lobbyistes industriels faire. Il faut aussi y réagir, ne pas hésiter à passer du temps à étudier les messages qui sont diffusés de leur côté, qui peuvent prendre la forme d'interviews, d'articles, de déclarations dans les médias, etc., ou de livres aussi, on en voit, écrits pour précisément démobiliser l'opinion autour du sujet. Il faut répondre à ces dénis. Ça peut faire l'objet de nouvelles actions. Et puis, il faut aussi bien se dire que lorsque les médias ont couvert un sujet, très souvent, comme il n'y a plus le scoop, ils ont du mal à y revenir. Donc il y a une sorte de démobilisation médiatique contre laquelle il faut lutter, et donc ne pas hésiter à prolonger. Bien sûr, l'enquête, si l'alerte est importante, elle mérite que vous prolongiez très longtemps cette investigation. Pour reprendre l'exemple de l'amiante, tout n'est pas sorti d'un coup. Au fil des années, les associations mobilisées ont découvert de nouveaux éléments et n'ont pas hésité à en redonner aux médias. Et les journalistes intéressés par ces scoops sur le scoop, en quelque sorte, ce scandale dans le scandale, ont publié de nouvelles choses. Donc ça a permis, au fil des mois et des années, de conserver l'attention de l'opinion publique sur le sujet et donc d'obtenir du législateur ou des autorités qu'elles interviennent et qu'elles mettent en place des mesures de prévention. Il est important dans ce cadre de mettre en place en fait une veille documentaire, en s'articulant avec des associations sensibilisées donc à cette alerte, de leur transmettre régulièrement des échos, des réactions notamment des lobbyistes industriels, ou dans tel pays, des mesures qui sont prises alors qu'ici on ne les a pas encore prises, etc. Donc mettre en place une veille qui peut être documentaire, mais qui peut être aussi dans l'approfondissement du sujet, suivre en bref ce qui se passe, ce que les acteurs font à l'échelle nationale, voire locale parfois, parce que parfois des communes sont très bien inspirées sur le sujet. Je pense en particulier au bisphénol A, à un moment, un certain nombre de communes, de petites communes souvent, avaient décidé que dans leur ville, on n'allait plus utiliser, dans le cadre des structures publiques, de biberons contenant du bisphénol A, ou alors tel aliment, parce qu'il est contaminé avec tel produit, etc. Ou, évidemment, à l'échelle internationale, regarder aussi la manière dont l'OMS ou l'ONU peuvent intervenir sur le sujet. Et ce sont des éléments qui peuvent, petit à petit, constituer aussi des facteurs pour maintenir l'attention sur le sujet et la mobilisation des pouvoirs publics.